Robière.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une l'enfer qu'ont vécu les habitants des îles Tonga dans le Pacifique. Témoignage une semaine après l'explosion d'un volcan sous-marin et enfin l'arrivée des secours. On y revient après les autres titres, Christelle.
Le Covid, 2 ans déjà, retour à Wuhan, épicentre de l'épidémie en Chine et première ville au monde à avoir été confinée. Les expatriés ont vu leur vie basculer. Dans ce journal, un adjoint au maire de Saint-Denis mis en examen pour viol sur mineur. La ligne à grande vitesse enfin sur les rails entre Montpellier et Perpignan, et puis nous irons faire un petit tour du côté de l'Open d'Australie où ça va pas très très fort pour Manarino en ce moment face à Nadal.
C'est du tennis donc, et puis l'Europe, changer ou périr, c'est le titre du livre de notre invité à 8h20, Nicole Niesoto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors.
France Inter. Il y a une semaine, l'explosion d'un volcan sous-marin dévastait les îles Tonga perdues dans le Pacifique. Sa puissance est estimée à 1000 fois celle de la bombe d'Hiroshima. Son onde de choc était telle qu'elle avait provoqué un tsunami 10 000 kilomètres plus loin. Depuis, c'était l'écran noir. Plus de communication, pas d'image. Les premiers secours venus d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont pu enfin arriver sur place dans un paysage de cendres dévastées. Olivier Poujade.
Les C-130 de l'armée australienne n'ont atteint l'archipel que jeudi soir, 5 jours après la catastrophe, 5 jours où les Tongiens ont dû s'organiser seuls au milieu du chaos provoqué par cette explosion volcanique.
Le son, le bruit de l'explosion était si fort que nos oreilles grésillaient et on ne pouvait plus s'entendre entre nous.
C'est l'un des premiers témoignages recueillis par les médias australiens. Cette habitante de la capitale, Nuku'alofa, décrit le travail des populations pour nettoyer l'épaisse couche de cendres qui a rendu l'archipel impraticable.
La poussière est partout, sur les toits, dans les arbres, dans les bureaux, dans les voitures. Ce qui nous inquiète, c'est notre accès à l'eau potable. L'essentiel de nos réserves a été pollué par les cendres volcaniques.
Un navire néo-zélandais transportant du matériel de désalinisation est arrivé ce week-end. Le bilan humain est encore incertain, mais le traumatisme est lourd. À l'image de l'histoire d'un des rescapés, après avoir passé 27 heures à nager dans les eaux déchaînées par cette éruption volcanique, l'homme a pu être récupéré sain et sauf.
Olivier Poujade, le tsunami ressenti jusqu'au Pérou a déclenché là-bas une marée noire au moment du déchargement d'un stock de pétrole vers une raffinerie. L'équivalent de 6000 barils s'est répandu sur les côtes. Le gouvernement déclare une urgence environnementale.
C'était il y a 2 ans, jour pour jour, la ville de Wuhan en Chine se transformait en ville fantôme.
13 millions de personnes confinées après la découverte de premiers cas de Covid. Aujourd'hui, les habitants ont retrouvé une vie presque normale, mais les cicatrices ne sont pas refermées. En particulier pour les expatriés, leur vie ont basculé. Sébastien Berriot est allé à leur rencontre.
Dans son appartement de la banlieue de Wuhan, Yann, la cinquantaine, est en ce moment sans travail et sans revenu. Ce coiffeur français avait pourtant une activité florissante, un salon avec une clientèle essentiellement française. Mais le confinement est venu brutalement mettre un terme à ses activités. Rapatrié en France, Yann a dû attendre 2 ans pour revenir en Chine. Son salon de coiffure n'existe plus aujourd'hui et il doit repartir à zéro, trouver un local et une nouvelle clientèle.
La clientèle étrangère a diminué carrément de 70%. Maintenant, on va faire la bascule de l'autre côté. Il faut que je me mette en tête que j'ai 70% de clients chinois et 30% de clients étrangers. Quand on décide de venir en Chine, il faut toujours avoir une démarche positive et accepter que c'est pas facile et qu'il faut du temps.
Le cas de Yann est loin d'être isolé. De nombreux expatriés ont, comme lui, perdu leur entreprise à cause du confinement et la précarité est un phénomène nouveau chez les expatriés en Chine, comme l'explique Françoise Onillon, conseillère consulaire pour les ressortissants français.
Il n'y a aucune aide chinoise. Les aides qu'on peut avoir, c'est celle de la France, des bourses pour les enfants à l'école, mais c'est tout. On n'a pas d'aide alimentaire.
Confrontés à des difficultés sociales, de nombreux expatriés n'ont pas eu d'autre choix que de revenir définitivement en France. Wuhan, Sébastien Berriot, France Inter.
Et le Covid donne toujours le tempo en Chine. La ville de Pékin va dépister tous les habitants d'un quartier après la découverte d'un foyer épidémique. On est à moins de 2 semaines du début des Jeux Olympiques d'hiver. En France, à la veille de la mise en place du pass vaccinal, la mobilisation des antipasses s'est effritée hier encore. Environ 38 000 manifestants dans toute la France, d'après le comptage du ministère de l'Intérieur. Une nouvelle fois, un élu de la majorité a été agressé. Le député LREM de Perpignan, Romain Gros, a vu sa permanence attaquée. Il a reçu un coup de poing au visage. Il va porter plainte. Quant à l'épidémie, le nombre de patients en soins critiques reflue doucement. 3 746 personnes hier. Les contaminations sont repassées en dessous de la barre des 400 000 à 389 000. en 24 heures. Un adjoint au maire de Saint-Denis en région parisienne mis en examen pour viol, Abdelmajid Bouena, est soupçonné de s'en être pris à des mineurs entre 2020 et 2021. Maureen Signard.
Deux femmes accusent l'élu de Saint-Denis de viol. La première, âgée de moins de 15 ans au début des faits en 2020. La seconde, également mineure, fait aussi état de violence. Le parquet de Bobigny indique que l'élu, notamment chargé du handicap et du sport santé, connaissait ses victimes. Lui qui participe au monde associatif de la ville et qui est également coach sportif. Abdelmajid Bouena est mis en examen, placé sous contrôle judiciaire, mais conteste les faits. De son côté, le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, annonce lui retirer l'ensemble de ses délégations compte tenu de la gravité des faits reprochés. Il lui demande également de démissionner du conseil municipal, de quitter la vie publique. Mathieu Hanotin rappelle aussi son engagement dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et dit réaffirmer avec force le respect nécessaire à accorder à la parole des victimes.
Maureen Suignard de France Bleu Paris. Une radiographie d'une victime des attentats du 13 novembre mise aux enchères par un chirurgien. C'est Mediapart qui dévoile cette affaire. Martin Hirsch, le directeur des hôpitaux de Paris, s'indigne et dénonce une attitude abjecte. Il va saisir le Conseil de l'Ordre. On y reviendra dans le journal de 8 heures. L'union des droites, c'est l'objectif que se fixe Éric Zemmour. Devant 4000 personnes à Cannes hier soir, il a mis en avant ses derniers ralliés et prône la construction d'une maison commune. L'union encore, cette fois du côté de Valérie Pécresse. Elle s'est assurée le soutien de deux partis centristes en promettant un projet de droite, de rupture, mais selon son expression, 100% compatible. Le ton monte à l'étranger entre le Royaume-Uni et la Russie sur l'Ukraine. Les Anglais accusent Moscou de chercher à installer un dirigeant pro-russe en Ukraine et d'avoir contacté d'anciens hommes politiques locaux. Le ministre russe des Affaires étrangères demande aux Anglais, je cite, de cesser leurs provocations.
Il avait été mis sur les rails il y a 30 ans. Eh bien, il va enfin se concrétiser.
Oui, il s'agit du projet de ligne à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan. Jean Castex était hier à Narbonne pour signer le protocole de financement des premiers travaux sur le tronçon vers Béziers, mis en service 2030. Et l'État s'est engagé, Claire Guédon, à relancer le train dans toute la région.
Oui, déjà en garantissant ce projet vieux de 30 ans, la LGV Montpellier-Perpignan. Une fois finie, elle fera gagner près d'une heure de trajet aux passagers. Alors ce n'est pas pour tout de suite. Le premier tronçon Montpellier-Béziers, ce sera pour l'horizon 2030 et Béziers-Perpignan 2040. Ce premier tronçon, c'est 2 milliards d'euros d'investissement, dont plus de 800 millions de la part de l'État. Cette ligne va donc bien voir le jour. Jean Castex l'a assuré, un premier pas pour désenclaver le territoire. 60% des Français qui sont à plus de 4 heures de train de Paris habitent en Occitanie. Le Premier ministre a aussi réaffirmé la volonté de l'État d'investir dans ce qu'il appelle les petites lignes, avec la modernisation de plusieurs trajets, notamment le TER Villefranche-Perpignan et la ligne du train jaune. Un investissement total de 800 millions d'euros, dont 257 de la part de l'État.
Claire Guédon de France Bleu Roussillon. On rappelle qu'il y a une grève des aiguilleurs demain dans le sud-ouest. 85% des TGV entre Paris et Bordeaux sont annulés. Renseignez-vous. La disparition d'un baroudeur des mers à 75 ans, Jean-Jacques Savin, était parti du Portugal le 1er janvier pour traverser l'Atlantique à la rame. Son corps a été retrouvé dans son embarcation retournée au large des Açores. Il voulait narguer la vieillesse et ne se fixait aucune limite. En 2019, déjà, il avait traversé l'Atlantique dans un tonneau en se laissant des durant 4 mois.
Le championnat d'Europe de handball avec les Bleus qui se compliquent la tâche.
Oui, la route des demi-finales est incertaine après une défaite hier soir en Hongrie contre l'Islande 29-21. En ce moment à l'Open d'Australie, le français Adrian Manarino affronte Rafael Nadal en 8e de finale. L'Espagnol a gagné les deux premiers sets 7-6, 6-2 et il mène en ce moment 5-1 dans le 3e set. Ça commence à sentir la fin. Quant à Djokovic, il a l'intention d'après le patron du tournoi de participer à l'Open d'Australie l'an prochain. Djoko saison 2. Le feuilleton n'est pas fini.
On va suivre ça. C'était le journal de Christelle Rebière. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Avec des conditions météo identiques à celles d'hier, Jean-Michel Gonaski.
Exactement, avec deux camps à nouveau aujourd'hui, celui du gris pour la moitié nord et celui du bleu que l'on va trouver du Poitou-Charentes aux Pyrénées et du sud Auvergne à la Méditerranée, avec de fréquentes gelées actuellement sur les régions méridionales vers moins 3, moins 5, en basse vallée du Rhône et au sud de la Garonne. Cet après-midi, il fera 10 à 14 de l'Aquitaine à la Méditerranée et généralement entre 5 et 7 plus au nord.
Jean-Michel Golinski, Météo France.